Vous êtes né à Mirande, dans le sud du Gers, si mes informations sont bonnes. Enfin, on dit que c'est avant le plateau de Lannemezan. Mais vous êtes indissociablement associé à Bordeaux et à son agglomération, même si votre profession d'architecte vous a fait connaître le monde entier, puisque votre notice biographique nous indique que vous êtes intervenu tout au long de votre longue et brillante carrière dans 21 pays différents répartis sur pratiquement tous les continents. Je pense que l'un des rares endroits au monde où vous n'avez jamais rien construit est l'Antarctique, encore que, en cherchant bien, on trouverait certainement un igloo dont vous auriez signé les plans. En 64, vous inventez la maison Boulon, dont vous avez ressorti non seulement les plans, mais une réalisation récemment, puisque j'ai fait partie des privilégiés qui ont pu en voir une totalement autonome, construite tout près de votre agence à Mérignac, ville où vous avez œuvré à plusieurs reprises. Je pense ne pas vous trahir en disant que vous êtes un architecte citoyen qui considère depuis très longtemps que l'acte de construire, de bâtir, d'aménager est par définition un acte politique, puisqu'au sens étymologique, c'est un acte qui fait cité, qui fait la police grecque, la cité. Voilà, le livre que l'on va présenter ensemble, Michel Pétoletan, est un livre hybride, c'est ma lecture, qui tient tout à la fois du bilan de ce qui a été imaginé, j'ose dire rêvé, depuis 40 ans à Bordeaux, et dans l'agglomération, et d'un retour aux origines pour ce qui a été construit, réalisé et inauguré, puis une dernière partie sur laquelle on va aussi échanger, qui est la vie, le futur. Et ce livre, en quelque sorte, il est le pendant d'un livre que vous allez nous montrer, je pense maintenant, qui a été édité aux éditions Vivisque, qui était aussi des éditions soutenues par la maison Mollard.
C'est la première maison d'édition de Mollard.
Et donc ça s'appelle Bordeaux 2005, c'est ça, il y a 21 ans maintenant. Très beau livre. Hein. Vous allez nous dire pourquoi avoir réalisé en 2026 l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui. C'est un très beau cadeau, d'ailleurs, à offrir à tous les amateurs d'architecture et d'urbanisme. J'en fais une publicité tout à fait volontiers et gratuite. Pourquoi cette suite, en quelque sorte, 20 ans après, c'est pas Victor Hugo, hein, ou Alexandre Dumas, hein, oui. Avec les Mousquetaires et D'Artagnan. Pourquoi ce 20 ans après?
Parce que je me suis toujours impliqué dans l'histoire de cette ville, que j'aime beaucoup, et j'ai eu la chance d'avoir des projets importants à faire, et notamment un projet pour le journal Sud-Ouest, et en 1972...
À l'époque où c'était encore
Rue Chevreuse, et il voulait s'étendre sur le nord de cette place, c'est-à-dire là où il y avait La République.
Le journal La République.
Voilà. Et là, à ce moment-là, j'ai travaillé avec eux. Puis après, ils ont vendu le site à une société qui s'appelait CEA, magasin. Et on a fait une fouille importante. Et on a découvert, à un moment donné, qu'on butait sur un élément dans le sol, au niveau des caves, qu'on ne pouvait pas démolir. Donc, on a fait dire des bulles, etc. Et on a trouvé là du béton romain. Le béton romain est un béton hyper solide, qui est fait avec beaucoup de chaux et autre chose. Et une fois qu'on a démoli ce mur romain, on a découvert l'histoire de Bordeaux. C'est-à-dire que sous la rue Porte-Digeaux, on a vu toutes les strates de l'histoire de Bordeaux jusqu'au moment où les premiers hommes sont installés, c'est-à-dire où le gravier n'avait pas été abîmé, impacté, et on a vu les différents incendies de la ville qui font qu'elle se reconstruit sur elle-même. C'est pour ça qu'une ville toujours monte en hauteur, voire à Sainte-Croix, avant monter vers Sainte-Croix, maintenant descendre en Sainte-Croix.
Voilà, la basilique Saint-Seurin aussi.
Pareil, exactement. Donc, une ville comme Bordeaux est montée d'environ 5 mètres depuis les Romains. Donc, et là, je me suis dit, c'est étonnant. Et en fouillant un peu plus à cet endroit-là, on a constaté que le décumanus romain, c'est-à-dire la rue est-ouest romaine, était exactement au centimètre près là où est la rue Porte-Digeaux. Et je me suis dit, mais il y a des centres-villes qui ne bougent jamais. Donc, à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'intelligence de dire c'est là qu'il faut s'installer. Non pas pour passer du temps, mais pour commercer, pour cultiver, pour s'éduquer, pour échanger. Et c'est ça qui m'a frappé et dit, je vais réfléchir à pourquoi les villes ont cette permanence de leur centre, cette importance de leur centre, qui est toujours le centre de Bordeaux, de la rue Sainte-Catherine et la rue Porte-Digeaux, c'est le centre dirons-nous, non pas presque géométrique, mais surtout de la dynamisme économique des commerces.
Alors, vous, en vous écoutant, Michel, on comprend aussi qu'une ville, c'est un palimpseste, c'est-à-dire ça ne cesse de se réécrire en quelque sorte, comme on disait pour les papyrus qu'on lavait et sur lesquels on réécrivait quelque chose de neuf. C'est comme ça, dit-on, que les fouilles à Troyes, la fameuse cité antique, ont caractérisé 9 villes, je crois, les unes par-dessus les autres.
Voilà. Et on pourrait presque dire la même chose. C'est pour ça que, après avoir fait ce travail, j'ai proposé ce livre, et la maison Mola a accepté de l'éditer, qui est un livre rare parce qu'il y a des calques à chaque fois qui permettent de mettre sur l'histoire vraie mon opinion, ou au moins de faire remarquer au lecteur ce qui est fort dans cette évolution. Et j'ai, à ce moment-là, à la fin de mon livre, j'ai fait une analyse. Pourquoi Bordeaux était bien placé?
Et là, vous évoquez à la fin de ce livre-là ce que vous appelez des vérités cardinales.
Voilà, et j'ai dit, chaque fois que la ville a eu une importance, elle était bien organisée.
Voilà. Alors, il faut expliquer ce que c'est que ces vérités cardinales. Ça n'a rien à voir avec le cardinal de Richelieu ou d'autres prélats successeurs. Parce que, d'une certaine façon, je repars sur ces vérités cardinales, car ce livre d'aujourd'hui, 2026, démarre sur ces vérités cardinales. C'est en quelque sorte le trait d'union, quoi. C'est le pont.
Exactement.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par vérité cardinale?
Parce que plutôt que de faire plein de choses à la fois et incomplètes et parfois mal faites, c'est beaucoup mieux, il serait préférable de faire des choses les unes après les autres dans le cadre d'un projet global.
D'accord, et mais là, attendez, on est déjà trop, on va trop vite.
Non, non.
Mais vérité cardinale, c'est les points cardinaux, c'est ça que c'est.
Exactement.
Alors, rappelez-nous-les, parce que tout le monde n'a pas forcément un GPS ou un satellite européen dans la tête.
Quand je travaillais sur ce livre en 85, il y avait déjà le développement important de Mérignac économiquement, grâce à l'aviation, grâce à etc. Et moi, je venais de faire le parc club Cadera, qui était le premier parc club en France. J'ai dit, il faut finir l'Ouest.
Il ça, est parti. Les autres points cardinaux, je rappelle, c'est Nord, Sud
et ensuite, et Est. Monsieur Chaban-Delmas avait créé Bordeaux-Lac, Bordeaux-Nord, qui était à l'abandon, à l'arrêt. J'ai dit, une fois qu'on a bien fait l'Ouest, on fait le Nord, qui commençait, qu'il faut finir. Mm-hmm. Et une fois qu'on a fait le Nord, il serait bon de faire le Sud, parce qu'il y a la gare Saint-Jean, il y a le TGV à l'époque qui arrivait, etc. Et là, je considérais qu'il y avait un pôle extraordinaire à faire agro-économique, dont je peux parler. Et ensuite, il dit, il faudra faire la rive droite, dont tout le monde parlait, parce que j'avais la chance de faire partie, un peu plus tard, du comité économique, du comité des deux rives qu'avait mis M. Chaban-Delmas, et donc j'avais participé aussi à cette évolution de la rive droite. Il y avait Beaufil à l'époque qui avait été pré-choisi, et donc j'ai dit, une fois qu'on aura fait la rive droite, on aura fait les 4 points cardinaux,
c'est ça,
et au milieu, le centre revivra, alimenté au niveau de la population et des échanges par les 4 points cardinaux.
Alors, on va évoquer ces. Dans la première partie du livre, donc c'est autour de vos rêves, enfin des projets que vous avez rêvés, la vérité cardinale sud.
Hein, oui.
Vous venez d'en dire quelques mots. En quoi est-ce que vous dites dans le livre, c'est un lieu assez unique parce qu'on est à la convergence, on est au point séquent entre une ligne SNCF, l'autoroute, etc.
Le fleuve.
Cette vérité cardinale sud, qu'est-ce que vous vouliez en faire?
Alors, je voulais en faire un espèce de centre européen, peut-être mondial, de l'agroéconomie. Nous sommes à Bordeaux, près de 4 régions très, très riches, qui sont les Charentes d'or, avec les vaches et le lait, etc. Nous avons la Dordogne, avec beaucoup de production agricole, la superbe vallée de la Garonne, qui est une petite Californie, et au sud, les Landes avec la Chalosse, etc. Et moi, je disais, comme le fleuve, la voie maritime arrive à Bordeaux, elle a été utilisée très longtemps pour produire, pour transporter des produits agricoles, comme la voie de chemin de fer arrive à Bordeaux, comme l'autoroute arrive à Bordeaux à cet endroit-là, sans feu rouge, faisons arriver tous ces produits-là. Et comme Bordeaux est immensément connu dans le monde comme une ville, on sait très bien, moi j'ai travaillé aux États-Unis, vous êtes d'où? De Bordeaux? Ah, Bordeaux, on sait ce que c'est, etc. À cause du vin, sans doute, mais c'est comme ça. Et donc, je disais, tous ces produits, ils arrivent à Bordeaux, départ Bordeaux, il y aura Chalosse écrit, il y aura Bergerac écrit, il y aura écrit Bordeaux. Et tout de suite, ils ont une autre comment dirons-nous, population qui va les apprécier, et les, ou tout au moins les connaître. Et donc j'avais pensé qu'on pouvait faire une dalle à 10 mètres de haut au-dessus des voies de chemin de fer. Cette dalle, elle sera arrivée au bord de la Garonne aussi. Sur cette dalle, on faisait des plantations, on sait très bien le faire, de la mixité, logement, bureau, commerce, et sur la partie qui est sur les voies mortes au bout de la gare, on pouvait faire même un aéroport de centre-ville avec des avions à décollage verticaux.
C'est ça, voilà.
C'est qu'on aurait eu tous les moyens de transport concentrés dans le même endroit. Et sous cette dalle, on recevait tous les produits agricoles, on les protégeait parce qu'à l'époque, il y avait des rayons gamma qui avaient été mis au point pour empêcher que les fruits, notamment, s'abîment, etc. Et on avait à ce moment-là un départ depuis Bordeaux d'une formidable région agricole qui est maintenant d'ailleurs la Nouvelle-Aquitaine.
Alors on voit les dessins, c'est tout à fait saisissant parce que on est à la fois dans une sorte de cité du futur, évidemment un peu de, comment on dit, de science-fiction, hein,
oui, oui.
Avec ces avions qui décollent, voilà, un peu comme les fameux Osprey américains,
oui.
à hélice qui variable. Et puis vous dites ce projet 2004-2005 à peu près, hein, qui semblait d'ailleurs intéresser fortement à Alain Juppé. Ça se fait pas, et ça se fait, dites-vous, pour un autre projet moins ambitieux, plus passéiste, qui s'appelle l'OIN Euratlantique. Voilà.
Voilà.
C'est la situation actuelle. Voilà.
Aux environs de 2004, Alain Juppé, qui avait lu mon livre, souhaite me rencontrer.
Ouais.
Nous parlons et je lui explique comment je vais faire ce projet. Il me dit, mais c'est très bien, aux élections municipales suivantes, il m'amène sur la scène en me disant, voilà ce qu'on va faire, etc. Il était tout à fait convaincu de l'intérêt économique pour Bordeaux de ce projet. Et seulement, il n'a pas la ville et la métropole n'avaient pas assez d'argent, donc il
se fait inscrire. Le projet de
oui,
du Bessier,
voilà, il fait inscrire tout ça. J'avais travaillé sur le mine aussi, et c'est moi qui ai fait supprimer la voie de chemin de fer qui a mené les chevaux polonais aux abattoirs à l'époque, de manière à pouvoir créer une voie rapide supplémentaire. Et il est convaincu, sauf que la ville et la métropole n'ont pas d'argent, donc il s'adresse à l'État et il crée un projet d'intérêt national, hein, qui à ce moment-là il perd la main.
Parce que
quand l'État prend la main,
la Caisse des dépôts qui
et voilà et qui décide qui sera le président, enfin pas le président, le directeur général de ça, qui lui il s'en fout un peu de Bordeaux. Et lui, ce qu'il veut, c'est développer un projet. Il est carriériste, ils l'ont tous été à cet endroit-là, et ils prennent des urbanistes qui connaissent pas Bordeaux, qui n'ont pas cette ambition, qui n'ont pas vu ce problème économique, et ils créent des rues à l'ancienne, par petits bouts, etc. Donc on a un urbanisme complètement dépassé, un urbanisme passéiste, comme j'ai dit, qui n'a aucune ambition et qui n'apporte rien à la ville.
Alors toujours au chapitre des projets étonnants, on a préparé ensemble cette présentation, il y a un projet qui est page 80-83 de votre travail, de votre livre, j'y vais, c'est le projet qui s'appelle « Ce nom Pont Rouge, porte d'entrée de Bordeaux ». Alors, je le montre à la caméra, c'est quand même très étonnant, parce qu'on a l'impression que ce sont les quatre piliers du pont Chaban-Delmas, mais pas du tout, hein. D'abord, ça se situe pas là. Vous allez nous dire où ça se situe sur la sur. Alors cette fois-ci, on est sur une vérité cardinale est, hein, si j'ai bien compris. Et alors, c'est quoi cette histoire de ce nom Pont Rouge? J'ai vu quatre tours de 130 mètres de haut.
Oui.
Vous y allez pas avec le dos de la cuillère, vous, Michel, quand vous faites quelque chose.
Non, mais on sait très bien, et on le sait encore mieux maintenant. On le savait peut-être pas au moment où j'ai fait ce travail, que la densité est essentielle et capitale si on ne veut pas les s'étendre à perpète, et si on ne veut pas donc imperméabiliser les sols et avoir, comme on a aujourd'hui, l'eau qui va inonder les quais. Donc il vaut mieux densifier et laisser les sols perméables permettant d'absorber l'eau. Ça, c'est global comme idée. Parce que toutes mes idées sont un peu écologistes. Hein.
Oui, c'est ça. C'est la constante. Hein.
Voilà.
Et donc, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'on va terminer là-dessus.
Donc, il y a une ZAC qui s'appelle Zone d'aménagement concerté, qui s'appelle Pont Rouge, qui concerne ce nom et qui concerne ce point de rencontre entre la Minutière, la grande avenue qui vient vers Bordeaux, et la voie de chemin de fer.
Donc, c'est l'équivalent de l'actuelle gare de ce nom.
Oui.
On est à la descente de la côte des quatre pavillons.
Voilà, c'est ça. Et, quand
on et au bout de l'avenue Thiers.
Pour voilà, quand clair. On descend la côte des quatre pavillons, on a une vue formidable sur Bordeaux.
C'est vrai.
En descendant, on voit le fleuve, on voit la ville qui s'étale à l'ouest.
Là, qui
et comme c'est paysager, en plus, c'est assez beau, là où passe le tramway maintenant. Et moi, je me disais, on arrive par là, on arrive là depuis la rocade, donc depuis l'autoroute. Et depuis l'autoroute qui aurait pu être, à l'époque, il n'y était pas, Lyon-Bordeaux, qui existe maintenant. Mmh. Et donc, on arrive là et on plonge dans la ville. Et je me dis, la borne d'entrée de la ville, comme il y en a toujours eu, ça pourrait être quatre tours qui, à cet endroit-là, permettaient aux habitants soit de partir vers Bordeaux, puisqu'il n'y avait pas encore le tramway, mais il y avait le transport en commun, soit de partir vers l'extérieur, puisque c'était le départ, soit de prendre le train. Parce que la voie de chemin de fer qui passe là, j'avais proposé de la recouvrir d'un tumulus de terre important sous lequel je mettais des parkings à voitures. Ce qui faisait que le train, on ne l'entendait plus parce qu'il passait dans un tunnel, et qui aurait été planté. Donc, ces quatre tours étaient au-dessus d'un espace vert avec les voitures garées dans ce tumulus de part et d'autre de la voie. Et donc, on pouvait habiter dans un espace qui devenait silencieux, calme et à portée de tout le monde et de la ville. Et ça, à ce moment-là, on rentrait vraiment dans Bordeaux. C'est-à-dire, on était à la côte des quatre pavillons, on voyait ces quatre tours, et à partir de ces quatre tours, on était dans Bordeaux. Mmh. Et ça avait plu au monsieur le maire, qui était monsieur David.
Le maire de ce nom.
Mmh. On avait fait des réunions publiques dans la salle Simone Signoret avec la population, et la population avait trouvé ça très intéressant. Parce que...
En plus, vous dites qu'il y avait la descente du parc Palmer qui est juste au-dessus.
Et voilà. Et de là, on partait vers le parc Palmer, qui était, et à pied, on avait le parc Palmer qui est magnifique. Voilà. Et malheureusement, ça s'est pas fait parce que la rencontre avec la SNCF a été compliquée. La région qui participait à ces rencontres, c'était aussi un peu compliqué. Et donc, on n'a pas pu aboutir. Mais j'avais ce rêve de faire une grande porte d'entrée dans Bordeaux par cette entrée Est, qui est quand même l'entrée principale. C'est celle qui nous ramène au continent. Parce que moi, je dis toujours que Bordeaux est la ville la plus septentrionale de l'Ibérie, et qu'après, c'est ici, c'est la fin de la Languedoc. De l'autre côté, c'est la Languedoc. D'un côté, on est catholique, de l'autre côté, on est protestant. Enfin, il y a le côté sud de la Garonne, on est des cueilleurs, on cueille des champignons, on cueille le pain, on cueille la vigne. De l'autre côté, on est laboureur, c'est différent.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que même si vous n'avez pas, comme on dit d'un point de vue académique, au sens universitaire, une formation d'historien, vous êtes un vrai historien au sens, j'allais dire, brodélien. C'est-à-dire que on voit bien, vous évoquez à la fois les paysages, la culture, l'histoire humaine.
J'adore Brodel.
Et tout le temps, vos projets architecturaux, ils se nourrissent à la fois d'histoire, de géographie et de sociologie. Voilà. Oui. Alors, quand même, ce projet Pont Rouge, ce nom, ça m'amène à un autre projet. On fait un peu le tour de Bordeaux, puis on terminera dans les rêves sur le projet sur la place Gambetta. Mais vous avez un autre projet qui est tout à fait étonnant, qui s'appelle le Grand Arbre à Bègle. Hein. Ça, c'est page 102 et 107 de votre livre, à 107. Et le lien avec le Pont Rouge, la question que je me pose, c'est quand on fait un geste architectural, moi, je ne suis pas du tout architecte, je dessine comme un pied. Est-ce qu'il faut que ce soit spectaculaire ce qu'on fait? Parce que, par exemple, le Grand Arbre, on jurerait un dessin de Bilal dans un de ses albums qui s'appelle Bug. Je crois que c'est le troisième volet de Bug ou le deuxième, avec comme ça une tour géante qui est autonome. Les quatre tours du Pont Rouge étaient 130 mètres. Là, j'ai même pas trouvé la hauteur du projet du Grand Arbre. Ça, j'ai bien regardé dans vos esquisses. J'ai essayé de compter les projets. Ça montait où?
C'est à peu près 130 mètres aussi.
Ah oui, quand même. Bon.
Oui, alors, il y avait une raison.
À chaque fois, est-ce qu'il faut qu'un geste architectural il soit puissant?
Oui,
exister.
D'abord, c'est important. Vous avez cité la ville, la police, la ville grecque, et toutes les villes ont été marquées par un geste important. Que ce soit les villes depuis la Mésopotamie, avec les ziggourats, il y avait toujours un point culminant dans la ville. Évidemment, à Athènes, c'est le Parthénon, mais et à Paris, c'était la cathédrale sur l'île Saint-Louis. Mais il y a toujours un point riche qu'on appelle un point fort. Le but, c'était à l'époque, pour moi, de dire Bordeaux, il ne faut pas y toucher. Bordeaux est très beau. Bordeaux, ce qui est magnifique, c'est une mise en scène extraordinaire. Vous arrivez au boulevard, vous avez des façades en pierre, avec des petites modulations. Vous avez un toit de tuiles. Vous allez plus loin, vous avez les mêmes façades en pierre, mais avec un étage, toujours des toits de tuiles. Puis vous arrivez dans le centre, c'est la même pierre, mais avec une écriture très riche, avec des moyens plus grands, avec un toit plus haut. Mais il y a une continuité, il y a une mise en scène extraordinaire qui est due à l'unité des matériaux. Mais il ne faut pas y toucher, à mon sens. Ce qui a été fait sur les quais, c'est magnifique, ça met en valeur. Voilà. Mais quelque part, la population qui grandit, puisque maintenant on est à près de 800 000 habitants avec l'agglomération, on ne peut pas l'étaler à perpète comme ça. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher en entretien, pour les facteurs, pour l'éclairage, pour les égouts, pour tout, et le transport en commun. Plus on étale, plus on devient coûteux. Donc si on veut arriver à une économie intelligente, il faut se concentrer. Et pourquoi ne pas marquer les quatre entrées de la ville ? Parce que ça a toujours été aussi des bornes d'entrée des villes, ont toujours été marquées, c'est ce qu'on appelle des portes.
Alors on va y revenir, parce que c'est d'ailleurs tout à fait d'actualité, c'est un des projets métropolitains.
Voilà, maintenant c'est revenu à la mode. Voilà, maintenant voilà. On parle des entrées de ville.
Ce grand arbre, pourquoi d'abord, le nom est bizarre, parce que, vous avez dit le grand chêne aussi, enfin, oui. Grand arbre.
Oui, grand arbre.
Oui. Alors c'était quoi ?
Parce que c'était entièrement végétalisé, ou tout au moins agricole, c'est un projet agricole.
Une tour, avec des plantations dedans.
Alors, d'abord, en bas, je faisais un volume planté qui permettait de, sous ce volume planté, d'avoir des parkings. Sur cette espèce de base qui est assez large, on pouvait avoir aussi comme des villas qui avaient ce terrain-là et qui avaient du terrain.
On va le voir,
au milieu, à l'écran, parce que ça, voilà, au milieu, il y avait une tour assez large qui avait des éoliennes à chaque étage. C'est quatre ça. Éoliennes à chaque étage. Parce que la différence de température entre le parking qui était dans la terre, qui était toujours à température au moins de 14 degrés l'hiver et un peu plus l'été, et le haut qui est toujours plus froid l'hiver et plus chaud l'été, il y a une ascendance naturelle de l'air et qui, à chaque étage, ferait tourner des turbines qui alimenteraient en électricité les quatre appartements ou les six appartements.
C'est pour ça que vous dites que cette tour, ce grand arbre, il était
autonome en énergie
et autosuffisant.
Voilà. En bas, je mettais, il y avait un terrain assez grand qui n'a pas pu être maîtrisé, et sur ce terrain assez grand, je mettais des ânes, des brebis, des chevaux pour avoir du fumier qu'on aurait utilisé pour améliorer la qualité des terres. Et donc, on aurait eu une production agricole. Mais à chaque appartement, il y avait trois terrasses. Il y avait une terrasse pour casser la croûte ou pour se reposer. Il y avait une deuxième terrasse à côté où on pouvait planter tout ce qui est des petits légumes, parce que maintenant on sait le faire sur des étagères comme ça, avec un petit conduit d'eau. L'eau n'était pas autonome. L'eau, on l'a puisée dans le sol, parce que là, il y a de l'eau à proximité, près de la Garonne. Et ensuite, il y avait un endroit où on aurait eu des insectes, de manière à se nourrir avec des insectes et avec la production aussi agricole qu'on se faisait sur la terrasse. Donc c'était aussi autonome en production agricole, et ça pouvait faire un projet très écologique, mais en même temps très utile pour la ville. Et pourquoi si haut ? Parce que quand on est en haut, j'avais prévu dernier étage, c'était un hôtel et des restaurants, et là, venir là, et on est au sud de Bordeaux, donc dans la journée, Bordeaux est éclairé par le soleil, on est donc bien placé pour voir Bordeaux bien éclairé, et le soir, c'était très joli de voir cette courbe de la Garonne avec la ville, quoi. Il y avait un point de vue extraordinaire. Voilà.
Je voudrais bien comprendre un peu la genèse de ce genre de projet. En gros, ma question, elle va peut-être vous paraître triviale. Comment ça vous vient, ça ? Ce genre de choses. Vous avez déjà réfléchi un peu à ça ? Vous créez, tout d'un coup, vous avez une idée ?
Je n'ai pas une idée préconçue en disant « je vais inventer une tour ». Je réfléchis à un site et je vois sa position géographique, sa position au niveau aussi de circulation, et je dis, mais là, il pourrait y avoir un projet important. Mais je n'ai pas envie d'imperméabiliser tout le terrain. Dans ma réflexion,
il y a des principes qui vous dites.
J'imperméabilise le moins possible, et j'essaie de mettre les habitants dans les meilleures conditions d'habitation. Parce qu'habiter là, ce serait formidable. On avait la gare à pas loin, on avait tout à côté. Il y avait même prévu un port sur la Garonne pour si on pouvait en naviguer avec des bateaux, bien sûr. Et ça m'a paru une évidence que de monter à cet endroit-là.
D'accord.
Et on gênait personne, parce qu'il n'y a personne derrière.
Oui. Alors, dernier projet en termes de rêve, puisque là, d'une certaine façon, on revient dans le centre de Bordeaux. Il se trouve que c'est un endroit que vous connaissez bien parce que vous travaillez en ce moment sur un des immeubles, c'est la place Gambetta, puisque vous êtes l'architecte de la rénovation de ce qu'on appelait improprement l'ex-magasin Virgin, mais c'est pour faire référence à l'histoire récente. Donc c'est Place Gambetta. Là, on est page 97 dans votre livre. Vous aviez un projet d'aménagement de la Place Gambetta qui était tout à fait étonnant, puisque vous l'appelez... Ça, c'est en 2014. Et là, pour le coup, il y avait une sorte de travailler sur la surface et sur le sous-sol, et de manière considérable. Expliquez-nous ce projet.
Alors, ce sont le président du comité de quartier de l'époque, M. Diard, qui m'appelle, qui me dit, voilà...
radiologue.
Hein, oui, on est très ennuyé, cette Place Gambetta, c'est invivable. Il y a un bruit par les camions, par les autobus, les camions, tout le monde en circulation. Il y avait 1600 arrêts d'autobus à l'époque, et à chaque fois, ces gros autobus... à remorque, à rallonge, quand ils freinent, ils font des vibrations dans le sol. Et j'étais monté dans son appartement, on voyait les murs qui vibraient. Quand
appartement au-dessus de l'ex café très connu, voilà, au coin du cours Clémenceau et voilà. De la Place Gambetta.
Et là, il me dit, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez une idée? J'ai dit, je vais réfléchir. Et puis, comme je commençais à travailler à l'époque, déjà, j'avais travaillé sur l'auditorium, je connaissais très bien la nature du terrain, je savais qu'on pouvait descendre profond, et la Place Gambetta, elle est plus haute que le cours Clémenceau. On monte vers la Place Gambetta, et au-dessus, on redescend très vite vers le musée des Beaux-Arts. Il y a 5 mètres de différence, c'est considérable, quand même.
Et donc, je me dis... Oui, dans le peinard, là.
Non, c'est le peinard, oui. Et je me dis, à ce moment-là, pourquoi, plutôt que de monter et d'envoyer toute cette circulation, cette pollution en haut, pourquoi on ne passerait pas dessous? Et à ce moment-là, la partie piétonne de Bordeaux irait jusqu'à Mériadec, et on aurait une ville dont tout le centre serait piéton. D'accord. Et ça serait agréable à vivre, à habiter, et puis la place, elle pourra être végétalisée, etc. Donc mon thème, c'était de passer, après la rue Roland, de rentrer dans un tunnel qui arrive sous la Place Gambetta. Là, on faisait une gare autobus et les 1600 autobus, 600 arrêts, ils auraient été dessous. Ils ne gênaient plus la population, mais ça permettait aux gens en difficulté de marche, dit à mobilité réduite, de se retrouver tout de suite dans le centre-ville. Tandis que là, on a déplacé certains arrêts plus loin, ce qui est compliqué pour les gens en difficulté, et d'avoir là, sous la place, une espèce de gare routière, comme ça existe dans beaucoup d'autres villes du monde, et avec vente de sandwichs, vente de journaux, des gens qu'on a pour tout de suite faire un peu des petits emplois, et remonter vite sur la surface. Et j'avais prévu qu'il y ait un plan d'eau au milieu, qui serait avec simplement 10 cm d'eau pour pas qu'un enfant se noie dedans. Et ce plan d'eau était sur une grande surface en verre, ce qui fait que dans la journée, à travers l'eau et la plaque de verre, là, cette gare aurait été ensoleillée, éclairée, et la nuit, grâce à la lumière de la gare dessous, le plan d'eau deviendrait lumineux, si je puis dire.
On le voit justement là aussi.
Et ça, on l'aurait fait gratuitement. Gratuitement, monsieur. Oui. Gratuitement, parce que Vinci avait apprécié ma recherche et m'était dit, on vient avec vous, si on a ce qu'on appelle un bail emphytéotique, c'est-à-dire un droit d'exploitation pendant 45 ans, on le fait gratuit. Et ça aurait été merveilleux pour Bordeaux, merveilleux pour les habitants de la périphérie qui seraient retrouvés tout de suite au centre-ville, merveilleux pour la piétonisation, merveilleux pour la plus de pollution, et on aurait en même temps réaménagé la place pour 0 centime pour la métropole. Ça a été refusé, et ça coûte 10 millions pour en faire un petit aménagement où il y a toujours un bout d'autoroute.
Alors, parce qu'on va y venir aussi à la fin de notre échange, à chaque fois vous dites, si mes projets avaient été acceptés, j'aurais pu faire une économie, faire des économies assez considérable à la métropole. On vient de voir à l'image le projet d'aménagement. Aujourd'hui, avec les outils d'intelligence artificielle, les outils de visualisation des projets, on arrive à vraiment avoir une représentation fidèle de ce que devrait être le projet à terme fini.
À l'époque, on n'avait pas l'intelligence artificielle. À l'époque, on ne savait faire des images de synthèse
2015.
À partir des plans qu'on avait dessinés, parce que j'ai tout dessiné à cette époque-là. Et on aurait pu, à ce moment-là, on avait déjà des images qui sont dans mon ouvrage de ce que cela aurait donné, tant en surface qu'à l'intérieur. Et ça aurait été formidablement agréable.
Alors.
En plus dessous, il y avait un parking, parce que ça coûte de l'argent pour amortir ces coûts. Vinci faisait un parking d'à peu près 1000 places dessous, et ce parking, il l'aurait loué pendant les 45 ans, ce qui aurait permis d'amortir les efforts financiers qu'ils auraient fait au départ.
Avant de passer, ça c'est la partie rêve, projet, qui ne sont pas réalisés.
Il faut avoir des rêves tout le temps.
Avant de passer à des œuvres que vous avez réalisées, alors pas forcément... abouti exactement comme vous les imaginiez au départ, on va le voir, mais qui ont été réellement construites. Question un peu en guise de transition. Est-ce que vous avez identifié les raisons multiples et variées pour lesquelles vos projets ne se sont pas faits?
C'est toujours des problèmes d'hommes.
Ou de femmes.
D'être humain.
C'est ça, voilà.
Quand j'ai fait la Cité mondiale du vin à Bordeaux,
alors on va y venir,
personne ne me l'a jamais demandé. Je l'ai inventé.
Oui.
Et on a offert pour zéro centime aux collectivités publiques, zéro centime de la ville, de la métropole, de la région, du département, on a offert la Cité mondiale du vin. Mmh. À ce moment-là, moi j'avais organisé 40 manifestations par an pour que pendant 40 semaines, il y a des gens qui viennent à Bordeaux, dans les hôtels, tous, sur des sujets concernant le vin. Bordeaux aurait été le point mondial où on avait toujours les renseignements. À 3h de l'après-midi, en Australie, un gars a un problème dans son vignoble, ou en Amérique du Sud, eh bien, il téléphone à... Il a fait Telex, à l'époque, à Bordeaux, et il y avait une veille permanente, et aussitôt, on lui répond, dans le quart d'heure qui suit, « Monsieur, votre problème, il peut être résolu par telle société, telle autre société. » Et on aurait fait une capitale mondiale du vin. Ça s'est pas fait parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas voulu passer leurs documents, alors qu'on a inauguré avec 27 pays qui étaient présents. Les vins espagnols on se sont dit, mais comment ils font les Bordelais? Ils ont des syndicats, c'est le CIVB à Bordeaux, ils ont des syndicats du vin. On va faire des syndicats du vin. Ils l'ont à Bordeaux, ils l'ont créé. Les Argentins ont fait pareil. Nous étions à ce moment-là un leader. Bon, pour des raisons d'hommes qui n'ont pas voulu passer leurs documents, leur listing, leur truc, ça a décru et ça s'est arrêté.
Et dans les projets, alors là pour le coup, contrairement à la Cité du vin qui s'est quand même réalisée, mais dans les projets qui n'ont pas abouti, hein, par exemple le Pont Rouge ou la place Gambetta version.
Le Pont Rouge, c'était beaucoup trop compliqué, il intervenait trop de monde. Si
voilà, c'est-à-dire qu'il SNCF, il faut qu'il y ait un opérateur, un décideur.
S'il y avait eu un homme politique.
Oui, c'est ça.
C'est toujours, il faut toujours des hommes politiques très forts.
C'est ça.
Un homme politique dominant, très fort, qui a dit je le veux,
oui.
Comme Monsieur Coulon a fait à Lyon pour faire le Grand Lyon,
oui.
Je le veux, et bien ça se fait. À Place Gambetta, Monsieur Juppé était assez d'accord avec mon idée, mais il y avait des conseils autour de lui qui ont dit mais non, il n'y arrivera jamais, c'est de la folie, etc. D'accord. Cependant, je venais de prouver en faisant l'auditorium.
Justement. Maintenant, on va rentrer dans la partie de ce que j'ai vraiment fait. On reste dans le quartier central. C'est cette réalisation qui est quand même tout à fait étonnante, qui a fait l'objet, si je me souviens bien, de deux ouvrages de votre part, hein, publiés aussi chez A Édition, parce que c'est un chantier absolument incroyable. De mon point de vue, c'est toujours très subjectif le rapport à l'architecture, hein, c'est pas pour rien qu'on dit que c'est un art royal. Il y a une dimension très subjective, on aime ou on n'aime pas, comme devant une œuvre d'art. Moi, je trouve que cet auditorium, qui est un lieu tout à fait extraordinaire, à l'intérieur, construit en plus dans un ensemble immobilier incroyable, parce que c'était extrêmement bâti, très très dense. Vous avez mené un chantier de 10 ans avec un montage financier, vous allez nous expliquer lequel. Tout à fait original. Est-ce que vous n'avez pas été tenté parfois de dire bon, je renonce, quoi, c'est trop titanesque, trop pharaonique. 10 ans avant d'arriver à cet auditorium qui a été inauguré en 2013, si je me souviens bien. Expliquez-nous ce chantier.
D'abord, je suis du Gers. Il y a d'Artagnan, hein, dans le...
Mais c'est ça. On ne vous arrête jamais, vous les...
Ma parenthèse.
Les Gascons. Oui.
Oui, j'avais. J'aime beaucoup la musique, je suis mélomane, mais je ne suis pas musicien, malheureusement. Et j'avais essayé de faire de travailler déjà sur un auditorium. Et quand Chaban-Delmas avait lancé le projet de mettre une grande salle de musique dans le parc Victor Hugo, enfin dans le gymnase Victor Hugo,
le palais des sports.
Pas des sports, oui. Pardon. J'avais travaillé à ce moment-là. J'avais rencontré un merveilleux acousticien, scénographe allemand qui a fait la Philharmonique de Berlin. Alors, Monsieur Chaban avait dit non, c'est trop cher. Bon, mais là, j'avais travaillé avec Roberto Benzi pour faire le programme. Ensuite, je rencontre Alain Lombard, avec qui je rentre en relation, et je propose de faire un projet dans un autre endroit qui s'appelait Burdipolis. Cours l'intendance, j'apprends beaucoup d'Alain Lombard comme j'avais appris d'un Robert.
Je rappelle, c'est les deux grands chefs qui ont dirigé
l'orchestre de Bordeaux,
l'orchestre philharmonique national de Bordeaux.
Et puis, bon, le projet ne se fait pas. Ensuite, Gaumont, pour qui j'avais travaillé à Lille et ailleurs, me demande de faire un Gaumont à Talence. C'est un autre projet auquel j'ai eu beaucoup de plaisir à faire.
Dans le livre, d'ailleurs.
Oui, que j'ai dans le livre. Donc, Gaumont me dit, mais qu'est-ce que je fais de ce terrain? Et ce terrain était impossible. On essaie de faire venir des grands commerces. Ils me disent, il n'y a pas d'entrée, il y a 8 mètres d'entrée, on ne peut pas faire. Par où arriveront les camions pour livrer, etc. On veut y faire des logements, avec des promoteurs bordelais connus. Et ils me disent, mais non, il n'y a pas de façade. Ou c'est comme, les gens ne vont pas regarder, vont pas avoir des appartements devant un mur. Et un soir, 2003, par hasard, je mange dans la pizzeria La Pébi qui avait en face, et je dis, mais c'est là qu'il faut faire l'auditorium qui trottait dans ma tête. Et donc,
avant, il y avait un multiplex, comme on dit, de cinéma
de cinéma salle, Gaumont, qui était parti.
Je ne me souviens plus combien il y avait de salles, une douzaine.
Un peu moins.
Les grandes salles,
des petites salles et tout. Ils avaient les salles les unes dans les autres. Et
ça allait jusqu'à la rue derrière, c'est-à-dire la rue du Palais Gallien.
Alors, oui. Ils allaient pas tout à fait.
Ah, bon, d'accord.
Pas tout à fait. C'était un immeuble occupé par la direction de Gaumont, d'ailleurs.
D'accord.
Monsieur Billy. Donc, je dessine ça sur la table de là où je déjeunais avec mes enfants et ma femme. Et je me dis, mais c'est là qu'il faut faire l'auditorium. Et je le dessine. Et puis après, je me dis, ben, je vais déposer un permis de construire. Parce que Gaumont me dit, mais on ne vend pas. Et je lui dis, donnez-moi 6 mois d'exclusivité et je vais vous trouver une solution. Gratuitement, c'était bénévole de ma part. Je dessine un auditorium dans le creux qu'on avait au milieu, de creux de cet îlot. Je fais l'entrée sur la cour Clémenceau. Je trouve des sorties de secours parce que je découvre plein de choses historiques. Je
ne vais
pas m'étaler là-dessus.
Quand on voit les images aériennes du chantier.
Oui, voilà. Et là, je dis, je vais apporter. Et après, je me dis, mais personne ne pourra payer un auditorium. Ça coûte trop cher. Ça coûte au moins 100 millions. Quand c'est à Paris, ça a coûté 300 et quelques millions. Et celui de Hambourg a coûté 800 millions. Donc, il faut faire attention, quoi. Et je dis, il faut que je trouve d'autres éléments. Et je dis, je vais mettre des logements dessus, parce que les logements en centre-ville, placés là, avec un parking dessous. Monsieur Juppé n'est plus maire de Bordeaux, c'est monsieur Hugues Martin qui le remplace.
Le cours intermède 2004-2006.
Voilà, et monsieur Hugues Martin me dit, mais pourquoi on ne mettrait pas un parking dessous? Et moi je me dis, ça c'est la bonne idée parce que je vais amortir les charges. Le parking va payer les fondations, les appartements vont payer le toit. J'ai très peu de façades, j'ai que 8 mètres de façade. Et quand on fait un auditorium sur un espace libre, évidemment, il y a des 4 façades et ça coûte relativement cher. Et donc je vais chercher des économies.
Enfin, des appartements au-dessus d'une salle où l'orchestre va jouer l'ouverture de Tannhauser, ça fait un peu de bruit pour dormir.
Oui, mais on a 2 toits. J'ai le premier toit d'auditorium.
Je voulais vous faire dire.
Voilà. Après, j'ai des grosses poutres considérables et un vide visitable. Et au-dessus, j'ai les appartements avec tous les tuyaux d'évacuation dans ce vide visitable pour pas qu'ils fassent du bruit, etc. Et tout ça, c'est
posé sur coussin. On n'entend pas les chasses d'eau quand on écoute
la méditation.
Non, c'est posé
sur amortisseur. Il n'y a pas de lien solidien entre l'auditorium et les appartements.
D'accord.
Tous les appartements sont posés sur des amortisseurs.
Il y a combien de niveaux d'appartements?
3. C'est posé sur des amortisseurs. C'est-à-dire que si un gars à 2h du matin se lève pour percer, ou à 11h du soir se lève pour percer son mur en béton, on l'entendra pas en bas parce qu'il et vice versa. Donc, et je me dis, je vais faire des économies. Je réfléchis, j'estime et je me rends compte que pour 24 850 000 euros, terrain compris, honoraires compris, frais de notaire compris, on peut faire un auditorium. Et je me dis, j'y vais. À ce moment-là, je demande à monsieur Oyon de m'accompagner parce que un architecte qui invente un truc pareil, ça paraît un peu fou. Et Oyon me dit non, moi je viens pas du tout. Ou alors, à une condition, c'est que tu me demandes pas un centime et je veux bien mettre mon nom. Et après, il prenait aussi des risques quand même, puisque quand on construit, on prend des risques. Et donc, j'ai fait ça. Monsieur Juppé n'était pas au courant et ses conseils lui disaient qu'il fallait surtout pas venir là, qu'il fallait aller au lac ou au bassin à flot, faire un grand auditorium par des grands architectes, etc. Mais moi, je continue. Et un jour, il veut me rencontrer. Et il me dit, mais ça m'intéresse, il paraît que vous faites quelque chose d'intéressant, vous avez obtenu un permis de construire, je vous rencontrerai. Je dis non. Parce que j'étais en difficulté avec lui pour d'autres raisons.
Mmh.
Et pourquoi vous voulez pas me rencontrer? Parce que vous avez des conseils qui vont s'opposer à mon projet et qui vont tout faire pour que je ne le fasse pas.
Mmh.
Donc je vois pas pourquoi. Et je lui dis, mais moi je veux bien vous rencontrer à une condition, c'est qu'on soit que tous les deux tout seuls. Et il me dit, mais pourquoi? Parce que vos conseils veulent faire un un auditorium au bassin à flot. Ils vont faire un concours, ils vont prendre des grands architectes. Le prix, pour les grands architectes, ça n'a aucune importance. Ils veulent faire une grande œuvre. Vous aurez des beaux projets, vous allez choisir le plus beau, il va vous coûter 150 millions. Plus le terrain qu'il faut acheter, plus le parking qu'il faudra faire à côté. Vous avez les moyens? Il me dit, ah ben non, on n'a pas les moyens. Je dis, bon, deuxièmement, Bordeaux est une petite ville. Si on commence à étaler tous les moteurs urbains, tout là où les gens vont, ça ne marchera pas, parce que les gens qui viennent de Dordogne ou de Charente ou de la périphérie de Bordeaux, il n'y a que 30% de vrais Bordelais qui vont à l'auditorium. 70%, ils viendront par la rocade, ils viendront assister au spectacle, ils partiront après et vous n'aurez aucun bénéfice dans la ville. Tandis que si on fait quelque chose au centre de Bordeaux, où il y a déjà des cinémas, il y a déjà le grand théâtre, la ville va devenir très dense et très forte en animation. Et en plus, on a tous les réseaux, on n'a rien à faire. Et il me dit, OK. Et donc, j'ai rencontré seul monsieur Alain Juppé et j'ai fait signer un contrat comme quoi il achetait pour 24 850 000 prix ferme forfaitaire non révisable, non actualisable.
Ce nom étrange, la VEFA, qui veut dire
vente en état futur d'achèvement. Quand vous achetez un appartement, vous le payez fini. Et c'est ça. Et on a fait ça, qui est très rare. Et j'ai eu plein de procès en disant c'est une combine, c'est n'importe quoi. Non, c'était tout à fait naturel, spontané. On a gagné tous les procès, y compris celui au tribunal administratif, et on a pu le réaliser. Ce qui nous a et on a fait des fouilles archéologiques que je n'avais pas tellement prévues au départ et qui nous ont ralenti pendant 2 ans.
Alors c'est ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement on arrive au final. Alors les plans que vous publiez sont absolument passionnants. On les montre là aussi avec ces différents niveaux. On voit du parking souterrain à tout en haut, avec les salles, la grande salle, les salles de travail, les coulisses derrière. Enfin, c'est une cité dans la cité. On termine avant d'aborder un projet qui vous tient à cœur, je sais, par la cité mondiale du vin. On en a dit quelques mots sur le fonctionnement, sur votre projet, hein, ce que vous vouliez faire. Là, on est plutôt du côté du quartier des Chartrons, hein, pas très loin du fleuve, tout près du fleuve, dans un endroit qui est un endroit historique du point de vue de l'activité, puisque c'est là qu'il y avait les chais et les négociants. Cette histoire de cité mondiale, on est en période de Chaban, là. Hein, vous dites c'est 1981-1991, c'est page 32 à 35 dans votre livre. Là aussi, c'est toute une histoire. Enfin, c'est un feuilleton à rebondissement avec un promoteur parisien qui a connu quelques déboires au moment où vous avez monté le projet. Là encore, on sent, quand on voit les esquisses, il y a l'idée d'avoir un geste architectural assez spectaculaire.
Oui, alors Jacques Vallade me demande en juillet 80,
premier adjoint Chaban-Delmas,
qui était un homme important
sur Bordeaux, ministre, beaucoup, futur président du conseil régional,
qui était ministre, départemental, me dit savait que j'avais travaillé sur ce dossier. Et j'avais travaillé avec un jeune architecte, Jacques Salinier, qui n'a pas voulu poursuivre après. Et il me demande, vous avez cette idée de faire quelque chose sur Bordeaux, sur le vin? Il me fait rencontrer les différents responsables, CIVB et compagnie, Chambre d'agriculture, etc. Et il me demande d'exprimer mon idée. J'exprime mon idée, j'arrive à convaincre les personnes que je rencontre que peut-être c'est possible. On me donne 3 mois pour faire le projet. Autrement, il partait au lac s'installer. Et donc, je dis, mais Bordeaux est une capitale mondiale du vin, et c'est là qu'est né le vin que nous buvons tous actuellement, le vin qu'on appelle de garde, celui qui garde, celui qui a fait Bordeaux d'ailleurs, et que copient tous les vins du monde. Hein. Il a été inventé là, au 18e siècle, au début du 18e siècle, parce que on stockait les étrangers qui était très présent à Bordeaux et qui vendait le vin dans la Hanse, dans les îles anglaises, ne pouvaient pas vendre leur vin avant que les Bordelais aient fini de vendre le leur. Donc, ils le conservaient dans des chais à l'extérieur de Bordeaux, c'est le début des Chartrons, et dans ces chais, ils attendaient le printemps. Mais au printemps, ils le vendaient plus ou moins piqué, c'est-à-dire 10 fois moins cher. Et ils avaient du mal. Bon, ils étaient très surveillés. Alors, il y a toute l'histoire de la barrique, l'histoire des assurances du vin que je ne vais pas raconter aujourd'hui. Mais c'est et un jour, quelqu'un découvre un tonneau qui avait été oublié. Il le goûte avant de le donner à des gens qui le transformaient en alcool, qui était du côté de la rue Notre-Dame. Il le goûte et il s'aperçoit que le vin est bon et qu'il est meilleur. Et là, il dit, on va spéculer. Enfin, tous, ils disent, on va spéculer. En 1708-1709, la Garonne était gelée. C'est une petite période d'hiver glaciaire qui a été importante. Et donc, les gars se disent, le jour où les autres n'auront plus de vin à vendre, nous, on aura gardé notre vin et on pourra le vendre cher. Et en plus, il sera meilleur. Eh bien, c'est là, dans cet endroit, au vin qui est des Chartrons à peu près, qu'a été inventé pour le monde entier le vin de garde, le vin que nous consommons maintenant. Tout a été mis en place, inventé là. Et au même moment, dans le vignoble, grâce à la précipitation du blanc d'œuf, on enlève les rafles et tous les éléments qui étaient dans le vin.
On peut coller.
Voilà. on a un vin plutôt sain qui arrive dans des barriques que on apprend à assainir en y mettant la mèche hollandaise, c'est-à-dire un bâton de bois avec du soufre dessus, dont l'anhydride sulfurique nettoie, enlève toutes les bactéries. Au même moment, on met du vin sain dans des barriques saines, dans des eaux saines, donc qui se conservent. Et donc, eux, leur thème, c'était on va faire des chais avec, on va protéger les chais du soleil, on va les mettre près des quais, on va construire par devant la maison de commerce, puis après, on construira l'appartement. Tout ça, c'est comme ça que se sont construits les Chartrons. Et on invente là le vin que le monde entier boit ou copie. Donc, je me dis, c'est là qu'il faut faire la cité mondiale du vin. C'est là. Et là, je dis, je fais un volume rond. Je m'occupe avec les protestants de racheter le temple qui était à la vente et qui n'est pas consacré comme les églises. Et je fais un dessin et je fais une flèche parce que je dis, il faut que ça se voit. Et M. Chaban-Delmas, qui est passionné par le projet, accepte qu'il y ait une flèche.
Il y a une photo, page 37 du livre. Là aussi, on va la montrer, je pense, à l'écran. On vous voit avec Jacques Chaban-Delmas. On voit Jacques Vallade dans le coin de la photo, en train de regarder la
maquette. J'avais fait une maquette et j'ai montré à Monsieur le Maire comment on verrait depuis les quais. C'est-à-dire que je laissais la façade des quais.
C'est ça.
L'histoire, il faut aller pas la détruire. Une bombe était tombée pendant la guerre là, avait détruit un immeuble du vin qui est des Chartrons. C'est là que Tatry, qui était une entreprise bordelaise de peinture, de tapisserie, puis de menuiserie aluminium, s'était installée. Et donc cet endroit qui n'était plus déchet parce que démoli pendant la guerre avait été occupé par un négociant. Très bien, je dis, mais on déplace les négociants au cours du Médoc et on installe là la cité mondiale du vin à l'endroit où est né le vin. Et le monde entier viendra se référer à ce lieu.
Bon, alors c'est une belle histoire que le lecteur va découvrir plus en détail en vous lisant. On termine, Michel, par le futur. Et vous avez un projet que vous poursuivez. Vous avez dit que vous étiez têtu tout à l'heure, au moins depuis 4 ou 5 ans, qui a fait l'objet d'un précédent livre qui s'appelait « La ville est morte, vive les villes ». Et là, vous défendez une idée qui a un très beau nom, qui s'appelle l'AMIE, A-M-I-E, c'est un sigle.
Acronyme.
Un acronyme, voilà, merci. Vous allez nous dire ce que c'est et pourquoi vous avez cette ambition. Et là, on retrouve l'architecte citoyen, parce qu'on est plutôt dans la construction architecturale institutionnelle, si je puis dire, peut-être que vous allez me démentir, plutôt que dans du béton et de la construction physique. Allez-y.
Je crois, j'ai eu la chance de vivre de travailler dans beaucoup de pays, de voir des systèmes différents et de m'apercevoir que dans certains pays, des systèmes étaient beaucoup plus simples parce qu'ils n'avaient pas notre histoire d'ailleurs.
Le système institutionnel.
Institutionnel et que les décisions étaient prises rapidement et c'était mis en œuvre rapidement. Et vivant Bordeaux, je me rends compte que politiquement en France, et pas seulement Bordeaux, on est freiné par des institutions qui se complexifient de plus en plus, qui se sont devenues surabondantes. Alors que moi, quand je regarde les permis de construire que je déposais en 1966-67, ils faisaient ça d'épaisseur, maintenant ils font ça d'épaisseur, et on met 7-8 mois pour avoir un permis, quand avant on mettait un mois et demi, deux mois. Donc il y a un problème quand même.
Le fait qu'on dit qu'en France, il faut à peu près 8 ans, en moyenne, entre le top départ et la coupure du ruban.
Oui, c'est ça, à peu près, voilà. Et je me suis rendu compte que, et je reprends les propos de Monsieur Lisnard, David Lisnard, président des maires de France.
Et maire de Cannes.
En 2012, le règlement dans l'environnement faisait 100 000 mots. En 2022, il fait 2 millions de mots. Et donc, on emploie du personnel pour que vous contrôlez tout ça. Bien sûr, parce que tous ces voyous que sont les architectes, les promoteurs, les constructeurs, il faut quand même les contrôler. Et donc, on a embauché 410 000 fonctionnaires pour contrôler sur abondance de règlements. Ça coûte, d'après M. Lisnard, 100 milliards à l'État français. Bon, arrêtons. Et moi, je dis, en dehors de ces propos qui appartiennent qu'à M. Lisnard, je dis oui, je constate qu'on perd beaucoup de temps, que ça coûte beaucoup d'argent et qu'on n'a pas fait les logements qui convenaient dans Bordeaux. On n'a pas fait un aménagement urbain intelligent. On n'a pas fait une relation avec les petits territoires périphériques qui crèvent parce qu'on fait toute l'économie sur Bordeaux. Et les gens ne peuvent plus habiter dans Bordeaux parce que les appartements sont trop chers. Ils habitent donc à Langon, à l'Espart ou ailleurs. Et ça leur coûte beaucoup de temps. Ça leur coûte beaucoup d'argent. Ils ont des voitures qui polluent. Mais on va à contresens. Réorganisons tout ça de façon très simple, simple, simple. Le mot, c'est simple. Si je m'étais présenté aux élections municipales de Bordeaux, je me serais appelé simple. On me redit que vous êtes un simplé, mais ça fait rien. Parce que il faut réduire tout cela à une très simple décision. On décide que tout ce qui est l'entretien des rues et de la police, tout ça, c'est facile à faire. On n'en parle pas, mais il faut proposer à nos enfants un avenir. Aucun des candidats ne présente un avenir à nos enfants. Et moi, mon propos, c'est de dire la ville ancienne, ce qu'on appelle la ville est morte. La ville ancienne, celle où tout le monde se connaissait, où tout le monde participait à la ville, où amenait sa pierre dans la construction de la ville. Je ne vais pas raconter l'histoire d'où ça vient, mais c'est très intéressant de voir que chacun aidait son voisin à construire sa maison. Cette ville, elle est morte. Ça n'existe plus. Les gens s'ignorent dans la ville, s'agressent. Il y a des violences qui sont nées dans la ville. Il faut arrêter ça. Pour arrêter ça, il faut créer des villes, c'est-à-dire créer des villes où les gens se connaissent, où ils sont en même temps, c'est-à-dire remettre de la valeur sur l'Espart, sur Marcheprime, sur Langon, sur Libourne, sur d'autres,
en leur qui sont donc dans la plus grande couronne.
Voilà,
de
et même jusqu'à l'océan, puisqu'on n'est pas loin de l'océan. Et il faut qu'on crée en premier une mobilité intelligente. Et pas quand on passe que Saint-Jean-d'Illac n'a pas de transport en commun parce que politiquement, à un moment donné, ils sont
une
pas rentrés
qui est à l'ouest de la
ils sont pas rentrés dans la communauté urbaine,
ils sont pas dans la métropole.
Bah, c'est inconcevable, ça manque d'une intelligence totale et parce que c'est devenu politique. Je te donne pas ceci parce que tu me donnes pas cela.
C'est plus... Donc, ça, c'est dans le livre, c'est de la page 124 à la page 137. On retrouve des éléments de votre livre antérieur avec des schémas qui sont tout à fait parlants. En page 128, 129, un tableau qui permet de voir la. Comment vous simplifiez hein, les couches, si je puis dire. On revient à la notion de couche dans cette proposition de l'ami. Il existe un modèle qui est pour vous un peu inspirant, je crois, c'est le Grand Lyon. Mais vous voulez pas faire la même chose du tout. Hein. En même temps, là, il y a eu une volonté un peu de concentrer les choses.
Oui, parce que les lois, la loi NOTRe,
Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 2015.
Oui, juillet, est une loi qui permet l'expérimentation.
C'est ça.
Et qui dit, si un ensemble de maires, à condition qu'il y ait au moins 15 000 habitants, c'est-à-dire largement dépassé, se mettre d'accord pour faire un projet commun pour un certain nombre de compétences, c'est possible. Alors pourquoi, aujourd'hui, les maires du département de la Gironde, il faut définir deux choses. Premièrement, une limite territoriale. Moi, je considère que les gens sont tout à fait investis dans leur département. On est landais, on est charentais et on est girondin. Et ça a un sens historique en plus. Donc, pourquoi la Gironde, dans sa limite actuelle, on n'a pas à la changer, c'est plus simple, ne serait pas élu au suffrage universel d'une équipe qui aurait quelques compétences qui seraient la suivante.
Ah, la mobilité. Vous allez loin parce que il y a des jeunes dedans dans votre
ah oui
dans votre
moi, conseil qu'il y a en plus un conseil un parlement comme on faisait avant qui comprendrait 40% de femmes 40% d'hommes et 20% d'adolescents pour que eux ils disent attention c'est ça dont nous avons besoin demain c'est là vers là que nous voulons aller c'est pas au covieux de faire la politique
il faut qu'on arrête cher Michel c'est-à-dire si les lecteurs veulent rentrer dans le détail et voir exactement prendre connaissance de la teneur de ce projet, ben le mieux, c'est qu'il se reporte à Bordeaux Projet, 60 ans de rêve pour une ville meilleure, et on sent que c'est pas fini avec vous. Merci beaucoup, Michel Pétoulier.
Merci, Jean.